Bonjour et bienvenue à cette édition spéciale de Famille à la Une. Ici Maude Goyer. Je vous présente aujourd'hui un épisode consacré à la réalité des parents nouvellement arrivés au Québec. Quels sont leurs défis au moment où ils décident de s'installer ici avec leurs enfants? À quels enjeux font-ils face? Qu'est-ce qui fonctionne le mieux pour faciliter leur intégration et celle de leurs enfants? Vous entendrez les conseils et les trucs de 4 intervenants d'organismes communautaires de partout au Québec. Ces experts apportent un éclairage pertinent et inspirant sur la situation des familles qui débarquent ici avec leurs rêves, leurs craintes et aussi leur passé. Bonne écoute! Changer de pays, d'environnement, de culture et parfois de langue, c'est tout un défi. Quand on est parent en plus et qu'on fait ce grand déménagement, c'est carrément une aventure. C'est presque comme se lancer dans le vide, même si on s'entend que plusieurs nouveaux arrivants préparent leur arrivée en amont, avant d'arriver au Québec. Ça reste que l'immigration, c'est une course à obstacles. On pourrait même dire un marathon. Ça prend des mois, voire des années avant de s'acclimater et de s'adapter. Les choses à découvrir, à comprendre et à apprendre sont nombreuses. Et il faut continuer à vivre, à travailler, à élever nos enfants et à prendre soin de soi, ce qui est souvent la dernière chose à laquelle on pense comme parents. Après avoir interrogé 4 intervenants en immigration du milieu communautaire, je peux affirmer ceci. Les parents nouveaux arrivants ont toute mon admiration. Je comprends mieux leur parcours, parsemé d'embûches, mais aussi de victoires. Je comprends que s'adapter à une nouvelle vie et se créer un nouveau réseau comporte son lot de défis, que le premier hiver peut être drôlement rude, que l'apprentissage du français n'est pas simple, que recommencer à zéro peut sembler insurmontable, que le partage des tâches entre conjoints peut être un joyeux casse-tête et que le fait de perdre et d'acquérir de nouvelles traditions demande du temps et de l'ouverture. Je viens de nommer les 6 aspects qui seront abordés dans ce balado. Je ne peux pas promettre que le contenu sera exhaustif et rendra compte de toutes les réalités, mais je promets qu'il a été fait avec authenticité, bienveillance et dans un esprit d'ouverture, avec un souci d'informer et de partager, un peu comme une main tendue. S'adapter à une nouvelle vie. Pour s'adapter à une nouvelle vie, les familles qui arrivent ici doivent d'abord comprendre comment la société fonctionne, comment elle s'organise et comment cela s'articule dans la vie de tous les jours. Certains parents qui immigrent se sont préparés des mois à l'avance. Ils ont déjà des repères, des connaissances. Mais pour plusieurs, tout est nouveau. Et donc, tout est propice à la surprise, au choc et à l'erreur. Peu importe leur bagage, tous les gens qui arrivent au Québec ont un dénominateur commun. Je laisse Iraïs Vietto, chargée de projet à la Maison internationale de la Rive-Sud, révéler quel est ce point commun.
Presque toutes les histoires sont pour aller chercher une meilleure vie pour les enfants. Donc, tous les objectifs sont versés sur l'enfant.
Donc, l'amélioration des conditions de vie de la famille et l'espoir d'un meilleur avenir pour les enfants sont au cœur des démarches en immigration. C'est peut-être pour cela que l'une des premières choses à laquelle s'attaquent les parents qui arrivent ici, c'est l'inscription à l'école. Avant de trouver un emploi, un logement, de prendre des cours de français, les parents ont le souci de trouver une place à l'école ou à la garderie pour leurs enfants. Voilà un premier obstacle, comprendre le système d'éducation. À quelle porte cogner, comment trouver une place en garderie ou en halte garderie, comment fonctionne le système de santé aussi. Bref, tenter de saisir comment ça marche, le temps d'organiser et de préparer tout le reste. Zina Ladj, coordonnatrice et adjointe au service accueil-intégration à la Maisonnée, un organisme de Montréal, résume ce que cela représente.
Il y a beaucoup de défis entre parents, école et les enfants. Donc ça, c'est un gros défi qu'ont les parents parce que souvent, ils ne comprennent pas comment fonctionne effectivement tout le système scolaire. Il y a la question du système de la santé. D'accord, qu'est-ce que je fais quand mon enfant est malade, c'est quoi, où est-ce que je vais pour trouver un médecin de famille, est-ce que je me présente en pharmacie, dans un hôpital, bref, toute cette vision-là, la communication, le système culturel, parce que qu'on le veuille ou non, c'est des codes culturels qu'il faut apprendre ici.
Une fois que les enfants ont trouvé leur espace, les parents doivent trouver un logement, ce qui est loin d'être aisé, on le sait. Le Québec vit une importante crise du logement et malheureusement, personne n'est épargné. Mais il y a un autre défi auquel est confrontée la famille immigrante et c'est celui du choc discriminatoire. Les immigrants peuvent se sentir jugés ou discriminés au moment de trouver un logement. Cela arrive comme une surprise et que ce soit réel ou non, tout est question de perception. On écoute Zina Ladj à nouveau à ce sujet.
On appelle ça le choc discriminatoire parce que ça les met dans une situation, ça peut durer longtemps par la suite. Ça peut faire en sorte qu'ils ne vont pas se sentir appartenir à cette société d'accueil. Et l'important, c'est que c'est un processus, donc ça se fait dans les deux sens.
Quand elle dit dans les deux sens, elle fait référence au travail d'ouverture qui doit être fait à la fois chez les nouveaux arrivants et chez les citoyens qui sont nés ici pour qu'une ouverture se développe et une confiance. L'autre grand défi pour les parents, c'est de se trouver un emploi. Ils font face à un obstacle majeur, celui de la déqualification, soit le fait d'être compétent et expérimenté dans un métier, mais que cela ne soit pas reconnu ici. C'est extrêmement frustrant et décevant pour eux. Cela influence leur estime et leur confiance. Stéphane Kando, intervenant à l'intégration à l'organisme La Mosaïque interculturelle en Abitibi, explique un peu l'impact de ce phénomène.
Les parents, ils arrivent ici, pour certains, ils ont des très bons backgrounds, des gens qui ont fait de bonnes études, mais ils arrivent ici, ils ne sont pas reconnus à leur juste valeur, et ça influe beaucoup dans leur vie de famille et dans leur façon d'intervenir en tant que parents.
La solution la plus souvent évoquée, qui revient d'un intervenant à l'autre, est celle du réseau. Pour apprivoiser leur nouveau chez eux, les nouveaux arrivants doivent être en contact avec les autres. L'isolement et la solitude les guettent et ils doivent, en quelque sorte, se forcer, je le dis entre guillemets, mais en tout cas, ils doivent prioriser le fait de se faire des contacts et des amis. Cela se fait plus facilement chez les enfants. Puisque les enfants, bon, ils profitent des infrastructures mises en place pour eux, les centres de la petite enfance, les écoles, les services de garde, les haltes de garderie, bref, tout ça aide les enfants à s'adapter en douceur et à s'installer dans une nouvelle routine. Pour les parents, la clé passe entre autres par les organismes communautaires. À ce sujet, on écoute à nouveau Iraïs Vieto de la Maison internationale de la Rive-Sud.
Être assez sensible et ouvert pour aller demander de l'aide, aller poser des questions, parler un peu de qu'est-ce qui se passe chez eux. On les trouve souvent que c'est évident, mais pour certaines cultures, ce n'est pas si évident.
Ce n'est pas si évident. Il ne faut pas oublier à quel point changer de pays et de culture représente un tournant majeur dans une vie. Le premier hiver. Mon pays, ce n'est pas un pays, c'est l'hiver. Les familles qui débarquent au Québec apprennent bien vite ce que veulent dire ces célèbres paroles de Gilles Vigneault. L'hiver n'est pas seulement une saison importante, c'est aussi un mode de vie. Les quatre intervenants d'organismes communautaires avec qui je me suis entretenue m'ont tous dit la même chose. Ils avertissent les parents et les enfants qu'il ne faut pas juste attendre que l'hiver passe, il faut apprendre à vivre avec le froid et la neige. Voici ce que Zina Ladj de l'organisme La Maisonnée dit aux nouveaux arrivants, petits et grands.
Ne subissez pas l'hiver, mais apprivoisez l'hiver. Quand on commence à tenir ce langage, on dit « écoutez, moi je suis là depuis 20 ans, je ne peux pas dire que je me suis adaptée à l'hiver, mais je l'apprivoise ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au moins, il faut faire des activités, il faut sortir, parce que sinon, si vous le subissez, ah, ça va être terrible.
Souvent peu préparés à la rigueur des hivers et à tous les caprices de la météo, les familles immigrantes reçoivent des conseils des organismes communautaires en plus de vêtements adéquats. Porter des vêtements chauds et superposés en couches, mettre un manteau chaud, des bottes, des gants ou des mitaines, protéger les enfants adéquatement, font partie des trucs de base qui leur sont relayés rapidement à leur arrivée. Les enfants, comme les parents, doivent aussi prendre conscience que les gens nés au Québec ont développé une résilience, une sorte de force intérieure et même physique qui ne leur font pas craindre l'hiver. Stéphane Kando de l'organisme La Mosaïque interculturelle en Abitibi fait un rappel aux familles qui arrivent au Québec. On l'écoute.
En hiver, ils vont voir peut-être un jeune marcher avec juste une petite paire de baskets, alors que lui, parent immigrant, il a une grosse paire de bottes. Ils ne comprennent pas pourquoi ça se fait. Je dis non, il faut pas faire comme lui. Il faut t'habiller convenablement. Lui, il faut te dire que c'est un enfant du terroir qui est né là, qui a grandi là, qui a développé des capacités, des aptitudes pour s'adapter à ça. Toi, c'est pas le cas.
La peur du froid et de se déplacer lorsqu'il neige ou qu'il fait très froid est bien réelle chez plusieurs immigrants. Mais la clé du succès réside dans l'intégration. Entre autres, si les parents sont ouverts, s'ils gèrent leur stress lié à l'arrivée de l'hiver et s'ils essaient de voir des aspects positifs, les enfants risquent de faire la même chose. Ils vivront tous alors l'hiver de façon plus sereine. Les explications d'Iraïs Vietto de la Maison internationale de la Rive-Sud à ce sujet.
Si les parents sont plus ouverts à l'hiver, donc bien sûr que l'enfant va aimer les nouvelles activités à faire à l'extérieur. Ils vont penser que c'est vraiment amusant, toutes les choses à faire à l'extérieur et voilà. Ça dépend beaucoup de comment est-ce que maman, comment est-ce que papa va s'intégrer pour l'hiver, par exemple.
De façon générale, après quelques années, si les parents et les enfants se mettent à faire des activités dehors pendant l'hiver, comme du patin ou du ski, ou tout simplement des marches ou des constructions de forts et de bonhommes de neige, ils vont apprécier l'hiver. Les organismes communautaires sont encore une fois une bonne porte d'entrée pour les initier aux joies de l'hiver, puisque plusieurs organisent des sorties et des activités. L'apprentissage du français. On entend souvent dire que le français n'est pas une langue facile à apprendre. Eh bien, c'est vrai. C'est une langue riche, mais complexe, remplie de jolies expressions, mais aussi d'exceptions. Pour les adultes et les enfants nouveaux arrivants, imaginez, cela s'ajoute à toutes les choses à apprendre et auxquelles s'adapter. Pour les enfants d'âge scolaire, les classes d'accueil donnent un soutien à l'apprentissage de la langue. Le problème, comme celui rencontré partout dans le système scolaire québécois, c'est le grand nombre d'élèves par groupe et la pénurie d'enseignants. Cela dit, la structure fonctionne selon les intervenants communautaires et les enfants apprennent assez facilement la langue, souvent plus facilement que leurs parents. Or, l'apprentissage du français est crucial. C'est ce que souligne Stéphane Candeau, intervenant à l'intégration à la mosaïque interculturelle.
Le premier facteur d'intégration reste la langue. Si vous ne vous exprimez pas, ça va être difficile pour vous. Vous ne saurez aller chercher l'information, vous ne saurez prendre connaissance de l'information, vous ne saurez vous plaindre. Mais il est encore mieux que ce soit vous qui vous exprimiez pour poser votre besoin que quelqu'un d'autre à votre place.
Les cours de francisation mis en place par le gouvernement sont gratuits et ils permettent un apprentissage en douceur, progressif. Le bémol dont j'ai beaucoup entendu parler pendant les entrevues, ils ne sont pas suffisamment connus des nouveaux arrivants. Oui, ils sont accessibles, mais encore faut-il savoir qu'ils existent. Iraïs Vietto, chargée de projet à la Maison internationale de la Rive-Sud, révèle à quel endroit, en général, les familles qui arrivent ici apprennent qu'il y a des cours de francisation.
Souvent, un parent qui arrive au Québec, la première chose qu'il va faire, c'est d'aller faire l'inscription, la priorité pour inscrire son enfant à l'école. Et une fois qu'il commence à faire tous ces processus, c'est d'habitude les 99% sont les commissions scolaires qui informent les parents.
Quand elle dit commission scolaire, elle parle bien sûr des centres de services scolaires. L'appellation a changé il y a 4 ans. Outre les services officiels disponibles, les familles peuvent aussi se pratiquer à parler le français dans des ateliers. Plusieurs se donnent dans les organismes communautaires et ils sont gratuits. Un exemple, à la Maisonnée, un organisme de Montréal, un thème sera déterminé, comme par exemple la musique classique ou la cabane à sucre, et les participants sont invités à discuter de ce sujet. C'est une façon d'enrichir le vocabulaire et aussi de se déjeuner. Les encouragements sont très importants dans l'apprentissage d'une nouvelle langue, autant chez les adultes que chez les enfants. Zina Ladge, coordonnatrice et adjointe au service accueil intégration à la Maisonnée, insiste sur ce point.
On vous comprend. Continuez à vous exprimer, même avec un accent, pas grave. L'essentiel, c'est qu'on vous a compris. Donc, on les encourage dans ce sens et on leur dit, c'est super, on t'a compris, donc c'est très bien. Vous voyez, on les encourage, c'est un encouragement. Parce que quand ils viennent, ils parlent un petit peu, pas beaucoup, et ils sont gênés, ils ne savent pas, et ça les bloque.
J'en profite pour rappeler, en passant, à tous les gens qui sont nés et qui grandissent au Québec, d'être tolérants et compréhensifs avec les gens dont le français n'est pas la langue maternelle. Un sourire, un mot gentil et surtout un peu de patience et de soutien, c'est gratuit et ça fait du bien. Recommencer à zéro. Imaginez recommencer à zéro dans un autre pays. Imaginez débarquer ailleurs, avec vos valises, vos enfants, dans un endroit où tout est nouveau, étranger. Vous ne connaissez pas les lieux, vous devez vous orienter, vous devez comprendre comment la société fonctionne, comment les choses sont organisées et en plus, vous ne parlez pas la langue. Imaginez comment cela demande du courage, de la résilience, de la volonté, de la persévérance. Et imaginez le nombre d'obstacles, d'incertitudes et le stress qui y est associé. C'est à tout ça que les parents nouveaux arrivants doivent faire face. J'en ai parlé avec Myriam Copry, fondatrice de Nunanuk, une clinique multidisciplinaire destinée aux parents de la diversité culturelle. Le premier pas à franchir, c'est de briser l'isolement. Cela peut prendre des mois, voire des années.
Refaire un réseau d'amis, par exemple, c'est plus long. Et la solitude, vraiment la solitude de l'immigrant, c'est quelque chose qui est très présent. Peut-être pas les premiers mois ou les premières années, mais ça va arriver à un moment donné, le téléphone ne sonne pas.
Elle enchaîne avec une explication. Les nouveaux arrivants travaillent beaucoup. Ils arrivent ici et ils doivent tout reconstruire et rebâtir. Et ce n'est pas parce qu'ils le savent avant de quitter que cela rend les choses faciles à leur arrivée. La réalité frappe et elle s'avère parfois plus difficile qu'anticipée. Le temps et l'énergie que demande le déploiement d'une nouvelle vie sociale ne sont pas nécessairement au rendez-vous. Autre aspect non négligeable, ils doivent aussi apprendre de nouveaux codes sociaux, comme par exemple, comment entrer en communication avec les autres, les formules de politesse, bref, l'étiquette du « vivre ensemble ». On le fait instinctivement quand on habite le pays où on est né. Le mal du pays peut aussi faire souffrir en silence. Zina Ladj, de l'organisme La Maisonnée, parle de son expérience personnelle. Ses parents sont originaires d'Algérie et elle est arrivée au Canada en 2002 après avoir vécu en France. Elle connaissait donc la langue, mais elle a tout de même vécu une adaptation. Les mœurs et cultures sont différentes au Québec. À travers son travail, dans ses relations d'accompagnement et de soutien des parents nouveaux arrivants, elle se sert de son histoire personnelle.
On leur dit, écoutez, on est passé par là. Vous n'êtes pas tout seul. Donc vous serez capable aussi, vous allez franchir tout ça et vous serez capable d'y arriver parce qu'il y en a des milliers qui ont fait la même chose, hein, quels que soient les pays. Donc c'est un peu de leur apporter de la confiance, la possibilité de leur dire c'est possible parce que nous l'avons fait. Donc oui, vous êtes capable aussi de le faire.
Encore une fois, le fait de partager des espaces pour qu'ils puissent communiquer, par exemple avec des gens de leur pays d'origine qui sont ici depuis longtemps, avec des familles qui viennent juste d'arriver au Québec ou avec des gens qui sont nés et qui ont grandi ici au Québec est primordial. Ces espaces représentent un filet de sécurité psychologique essentiel pour se sentir bien, pour s'émanciper et s'épanouir. Cela a forcément un impact sur l'ensemble de la famille. On le sait, si les parents se sentent soutenus et appuyés, ils pourront à leur tour être disponibles pour leurs enfants. C'est une chaîne en quelque sorte. La bonne nouvelle, dans la majorité des cas, ça marche. Les familles immigrantes s'ajustent et s'adaptent. À ce sujet, je laisse Myriam Copry conclure.
Moi, j'ai vraiment vu des transformations familiales où vraiment l'équilibre a été retrouvé, où la famille est beaucoup plus solide malgré la crise qu'ils ont pu traverser. Mais on a compris qu'en fait, c'était circonstanciel.
Le partage des tâches et la vie conjugale. L'une des grandes particularités de la société québécoise, et je l'ai encore plus compris en faisant les entrevues avec les 4 intervenants communautaires, ce sont les droits que nous octroyons aux gens. Je parle des droits qui visent à faire du Québec une société égalitaire, diversifiée, inclusive. Par exemple, via les droits des enfants, ceux des membres de la communauté LGBTQ+, les droits des personnes en situation d'handicap ou de troubles comme l'autisme. On parle aussi de plus en plus des droits des personnes âgées, des locataires, des employés, des personnes en situation d'itinérance. Je vous cite tout cela en exemple parce que c'est vraiment une caractéristique de notre société. Quand on baigne dedans, on ne s'en rend pas toujours compte. Pour les parents nouveaux arrivants, c'est une nouveauté et qui dit nouveauté dit adaptation. Par son travail de coach interculturel pour parents immigrants, Myriam Copri de la clinique Nunanuk est aux premières loges pour constater le choc que cela représente, entre autres dans les relations hommes-femmes. On l'écoute à ce sujet.
Il y en a qui arrivent déjà avec ces valeurs au niveau du partage des tâches et l'égalité hommes-femmes. Il y en a d'autres, ça va prendre un certain temps, mais ce qui est important, c'est de voir qu'effectivement, ils vont être confrontés à cet ajustement dans leur rôle, leur positionnement comme homme et comme femme dans leur relation.
Ils seront confrontés, entre autres, au fait d'élever seuls leurs enfants. On revient à la question du réseau. Souvent, selon le pays d'origine, les gens élèvent leurs enfants en communauté, avec la famille élargie. Le grand-père, la grand-mère, les tantes et les oncles sont impliqués. L'aide et le support viennent donc du milieu organique. Au Québec, c'est différent. Le milieu institutionnel et le milieu communautaire prennent la relève. Il s'agit de structures organisées. Ce changement de paradigme peut déstabiliser les parents immigrants. Par exemple, les mères peuvent décider de tout prendre en charge pendant que leur conjoint cherche du travail. Alors qu'elles étaient aidées et soutenues et comprises dans leur pays, elles se retrouvent isolées, à tout faire, sans aide et sans savoir à quel moment lever la main pour justement recevoir de l'aide. Elles n'ont pas non plus le réflexe de se tourner vers leur partenaire puisque cela ne fait pas nécessairement partie de leurs valeurs ou de leur mode de vie. Et c'est là qu'elles risquent l'épuisement. Myriam Copri a été témoin à maintes reprises de cette situation, une situation crève-cœur, on va se le dire.
Beaucoup, beaucoup de femmes arrivent épuisées et se disent, le mari n'aide pas, elles ont la grande responsabilité, elles doivent gérer les enfants, la famille, le travail, et elles ne comprennent pas qu'est-ce qui se passe.
Lorsque les mères sont écoutées, puis informées et guidées, elles arrivent à retrouver un équilibre. Il faut pour cela beaucoup de communication, d'ouverture et de transparence dans le couple, entre autres en ce qui concerne le partage des tâches. La transition se fait doucement et tranquillement. Et lorsque les choses se placent, les femmes vont elles aussi se chercher du travail et parfois se créer une vie professionnelle ici. Myriam Copri a accompagné plusieurs familles dans ce passage.
On sait que l'intégration commence par les enfants d'abord et par la femme, ceux qui ont accès à un emploi les derniers. Et oui, ça crée vraiment une déstabilisation au niveau de la dynamique de la famille. Souvent, les femmes vont faire appel à nous quand elles sentent que justement, ça a un impact dans la relation conjugale ou familiale. Elles font appel à nous pour soutenir le mari. J'ai également vu des femmes qui refusent des emplois parce que leur mari n'a pas encore trouvé d'emploi pour garder cet équilibre.
Dans certains cas, l'équilibre est atteint et la famille reste soudée, heureuse. Mais dans d'autres cas, le fossé est trop grand et cela crée un choc. La femme souhaite s'émanciper, elle adopte par exemple les valeurs d'ici et un conflit peut éclater dans le couple. Et malgré toutes les bonnes volontés et les interventions bienveillantes des agents communautaires, la séparation est inévitable. On écoute Zina Ladj de l'organisme montréalais La Maisonnée à ce sujet.
Où la femme, effectivement, n'en peut plus parce qu'elle se dit non, et malgré tout, ce que je peux lui dire, ça ne change pas, ça ne change rien. Et elles se disent qu'à un moment donné, elles n'en peuvent plus et puis elles vont couper court parce qu'elles se disent après tout, on a des droits ici et puis on va devoir changer quoi la donne. Hein.
Peu importe la situation, les organismes communautaires sont là pour assurer un suivi psychologique et émotionnel aux mères et aux pères, qu'ils soient toujours en relation conjugale ou que celle-ci se soit transformée en relation parentale. Les intervenants sont des témoins privilégiés de nouveaux départs. Les traditions. Le dernier point que je souhaite aborder dans ce balado, c'est celui des traditions, celles qu'on laisse derrière et celles qu'on choisit d'adopter. Dans un souci de garder leur culture bien vivante, les familles immigrantes continuent de cuisiner des recettes traditionnelles de leur pays et elles continuent de célébrer leurs rituels et leurs fêtes importantes, le plus souvent chez eux. Mais celles-ci ont aussi lieu, parfois, dans l'enceinte des organismes communautaires. C'est une façon de créer des liens, d'échanger et de partager. Iraïs Vietto parle de comment cela se passe dans l'organisme où elle travaille, la Maison internationale de la Rive-Sud.
On donne comme l'opportunité de montrer sa nourriture, de montrer ses habitudes et qu'ils se sentent fiers maintenant de les montrer ici au Québec.
C'est aussi via les organismes communautaires que les parents immigrants découvrent les traditions d'ici. Mais ça se passe aussi grâce aux contacts qu'ils se font avec d'autres parents, à la garderie ou à l'école par exemple. Parmi les plus populaires, aller aux pommes et aller à la cabane à sucre. Bon, il n'y a pas vraiment de hasard ici, puisque ce sont deux habitudes bien ancrées au Québec et qui sont liées à une activité qu'on aime beaucoup faire, manger. C'est comme un 3 dans 1. Ils goûtent à des produits du terroir tout en explorant une nouvelle activité qui permet en plus d'apprécier les saisons. Je pourrais nommer une autre activité très appréciée par les nouveaux arrivants, nommée par plusieurs intervenants communautaires à qui j'ai parlé. Et je vous avoue que ça m'a un peu pris par surprise. Il s'agit de la pêche sur la glace. Je laisse Stéphane Candeau en parler.
Il dit, bon, je vais amener l'enfant pour qu'il s'amuse. Et il se dit, ah, moi, je vais marcher dessus, c'est un défi pour lui. Ensuite, il marche, il va jusqu'au milieu du lac, et on perfore la glace, il lance son truc. C'est des choses comme ça.
Encore une fois, le partage des coutumes passe par la communication et bien sûr par le réseautage. Si chacun reste de son côté, campé dans ses positions, ce n'est pas possible de partager ce qui nous tient à cœur et ce qui explique d'où on vient. Tout commence par aller vers l'autre. Et c'est l'heure de la conclusion. Il y a un élément qui revient dans tous les aspects que j'ai abordés depuis le début du balado. L'importance de briser l'isolement et la solitude et de se créer un réseau. C'est vrai pour chaque être humain et c'est vrai pour chaque être humain qui vit un grand bouleversement comme celui engendré par l'immigration. Plusieurs pistes sont données par les intervenants que j'ai interrogés pour réussir à tisser des liens. Par exemple, se faire des amis dans la communauté d'origine établie ici, cela peut faire de petits miracles pour se désennuyer, poser des questions et s'informer. Une autre piste, aller à la rencontre des responsables d'associations communautaires en lien avec son pays et d'intervenants d'organismes communautaires comme ceux présentés dans ce balado. Il en existe des centaines au Québec, dans toutes les régions. Aussi, entamer des conversations avec les parents qu'on croise à la garderie ou à l'école ou encore dans son voisinage. Oui, il faut oser faire le premier pas, surmonter la barrière de la langue, faire face à une part d'inconnu et apprendre à faire confiance. Oui, c'est vrai, c'est un peu comme se lancer dans le vide. Mais ça vaut la peine, parce que dans le fond, c'est le début d'une nouvelle vie citoyenne. Et cela donne aussi l'exemple aux enfants. Je laisse le mot de la fin à Zina Ladj, coordonnatrice et adjointe au service Accueil Intégration à la Maisonnée, qui a eu de bien sages paroles à ce sujet.
Ils ont des choses à donner à cette société. Et il ne faut pas qu'ils sentent que seulement cette société leur apporte, c'est vrai, mais eux aussi doivent beaucoup apporter. Et ils ont la capacité de le faire. Vous comprenez, il faut juste qu'ils prennent leur place et qu'ils se donnent confiance et voilà. Et qu'ils savent que, de toute façon, le Québec, c'est interculturel, on est à une diversité.
Merci d'avoir été là et à bientôt.